Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Elle est à peine terminée que l'on regrette déjà le bilan mitigé de la dernière conférence de l'ONU sur le changement climatique, la COP26, qui s'est conclue mi-novembre à Glasgow. Pas assez d'engagements fermes sur la limitation des gaz à effet de serre à un horizon de 10 ans. Pas assez de solidarité nord-sud et d'engagements financiers des pays les plus développés, ceux dont le bilan carbone accumulé au fil des décennies est le plus lourd, alors que les petits pays en développement peinent à opérer leur transition énergétique. Et pourtant, il y a urgence, y compris en Europe. Le pourtour de la Méditerranée est un chaudron et pas besoin d'attendre 10 ans pour observer la catastrophe. Dans le sud-est de l'Espagne, en Murcie, la mer Mineure, une des plus grandes lagunes d'eau salée d'Europe, est en train de devenir une mer morte. L'été dernier, des tonnes de poissons morts ont échoué sur ces plages, asphyxiés par une eau trop polluée, par les nitrates de l'agriculture, par la pression touristique et par le réchauffement de l'eau. Sur place, la société se mobilise, mais les pouvoirs publics tardent à intervenir. C'est le reportage de Diane Cambon.
Dans le petit port de Cabo de Palos, Bartolo répare son filet. Ce quadragénaire à l'allure trapue fait partie des 50 derniers pêcheurs de la Manga, une frange de terre de 20 km qui délimite la Mar Menor, la mer mineure, de la mer Méditerranée. Une lagune d'eau salée, aujourd'hui encerclée par les tours et les bars, digne d'une mégalopole. Enfant, il lui arrivait d'aller pêcher avec son père, également marin dans ses eaux calmes, devenue une piscine de jeux pour les sports nautiques du tourisme de masse, et où 85% de la vie aquatique a disparu.
C'est un désastre aujourd'hui en mer Mineure. Ils l'ont foutu en l'air entre l'agriculture et les bateaux des sports nautiques. Il y a trop de moteurs, trop d'essence qui est jetée à la mer. Et puis l'agriculture, toutes ces saloperies qu'ils jettent dedans. Regardez l'eau, le sable, il est pourri. Ce n'est plus la couleur sable, ça c'est noir. Puis il y a de la vase, on ne voit plus le fond. L'eau est sale et très trouble.
Depuis 20 ans, Pedro Garcia, président de l'Association des naturalistes du Sud-Est, met en garde contre la détérioration de ce lagon aux allures paradisiaques. Avec le voilier de l'association, il arpente cette mer intérieure, détectant les zones sinistrées. Pour lui, la cause de cet écocide ne fait pas de doute.
La mer Mineure n'a jamais été aussi maltraitée de son histoire. L'origine du problème est l'arrivée d'une grande quantité d'eau qui vient du réseau d'arrosage des champs de la province de Carthagène. Et à l'heure actuelle, pendant que l'on parle, la mer Mineure reçoit un débit d'eau important, comme une rivière de 200 litres d'eau par seconde, avec un fort apport de nitrates généré par l'agriculture intensive.
Cet été, pour la troisième fois consécutive, la mer Mineure a connu un processus d'eutrophisation. Les algues vertes se sont multipliées, nourries par les nitrates provenant des engrais chimiques de l'agriculture et ont créé des zones sans oxygène, étouffant l'écosystème aquatique. Résultat, 5 tonnes de poissons et autres crustacés sont venus agoniser sur les rives devant la stupeur des touristes et des habitants. Ce phénomène, qui est amené à se développer en raison du réchauffement climatique, a servi de détonateur, comme le confie l'écologiste Pedro Garcia.
Cet été, beaucoup de gens se sont réveillés face à la situation de la mer Mineure et ont demandé des gestes et des actions concrètes. On est dans une phase très importante où il y a des actions au sein de la société, des politiques et de la justice, mais on est encore loin de trouver la solution.
Tous les regards se tournent vers le secteur agroalimentaire qui génère 20% du PIB de la région de Murcie. Des champs à perte de vue font face à la réserve d'eau salée où s'enchaînent pas moins de 4 récoltes par an de produits maraîchers. Vicente Carrion, président de la COAG, la principale organisation agricole de la région, refuse d'assumer l'entière responsabilité de la destruction de la mer Mineure.
Tout le monde nous montre du doigt. Nous sommes conscients que le secteur agricole a eu sa part de responsabilité. Mais aujourd'hui, on ne verse plus de nitrates. Il est déjà présent dans les eaux souterraines, mais cela remonte à 40 ans. C'était avant, lorsqu'on inondait les terres pour la culture du coton et du poivron. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de surplus de nitrates, je vous le garantis.
Joint par téléphone, le conseiller de l'agriculture et de l'environnement de la région de Murcie, le conservateur Francisco Marin, reconnaît la responsabilité des agriculteurs et énumère les projets pour sauver la mer mineure, comme le plan zéro nitrate, qui pour l'instant reste un vœu pieux. Car une difficulté de taille empêche de passer à l'action, l'absence d'accord entre la région de droite et les socialistes du gouvernement central de Madrid.
Nous devons créer une collaboration, disons, loyale entre les administrations pour mener à bien les projets. Mais il semble que les couleurs politiques des différents partis au pouvoir importent plus que le problème que nous avons face à nous. La société ne va pas nous pardonner de ne pas mener à bien les projets.
Face à la passivité des autorités publiques, les ONG locales ou associations de défense de la nature, comme l'ANCE, entreprennent des actions privées à leur échelle, comme l'explique Pedro Garcia, qui fustige les différentes administrations.
Nous attendons tous qu'il y ait une meilleure collaboration entre la région et Madrid, et comme il n'y en a pas, eh bien, nous continuons à mener nos propres projets. Nous menons des actions concrètes, comme par exemple la restauration de 25 hectares et 1 km de littoral, pour montrer que l'on peut renverser la destruction de la manga, avec la création d'un grand filtre vert pour créer un marécage naturel qui filtrera les nitrates.
La conservation du littoral est devenue un enjeu de taille en Espagne. La côte méditerranéenne, avec une agriculture intensive et un urbanisme massif, est de loin la plus affectée. Or, une nouvelle menace pèse sur elle, la montée des eaux comme conséquence du réchauffement climatique qui grignote chaque année quelques millimètres de terre.
Et la Grèce a connu l'été dernier une de ses pires canicules. Les incendies ont détruit 100 000 hectares de forêts et de terres agricoles. Mais l'élévation des températures affecte aussi l'espace marin, ce qui provoque des tempêtes tropicales. Les explications à Athènes de Joël Bronner.
En septembre 2020, un cyclone méditerranéen baptisé Yanos s'est abattu sur la Grèce, faisant 4 morts et de nombreux dégâts matériels. Ce type de tempête, qui se développait jusqu'à présent uniquement dans les zones tropicales, se caractérise par des vents violents et des pluies diluviennes. Dimitris Ibrahim est en charge des questions relatives au changement climatique pour WWF en Grèce.
Ces dernières années, l'un des problèmes fondamentaux dont nous avons fait l'expérience et qui marque une nette rupture avec ce que nous observions par le passé, c'est ce que l'on appelle les médicanes, qui sont des sortes d'ouragans méditerranéens. Leur origine est très largement attribuée à l'augmentation de la température de la mer, en particulier de la surface de l'eau. La chaleur crée ainsi les conditions nécessaires à la naissance de ces médicanes. Alors que ce phénomène était jusque-là rarissime, pour ne pas dire totalement inexistant en Grèce, nous en avons déjà observé une petite poignée ces deux dernières années.
Sous la surface de la mer, l'augmentation progressive des températures commence aussi, de son côté, à avoir un impact sur l'écosystème. Certaines espèces de poissons arrivent ainsi via le canal de Suez dans les eaux méditerranéennes, où le changement climatique en cours semble favoriser leur installation et leur prolifération.
Le lagocéphalos, ou poisson-lapin, et le ptérois, aussi appelé poisson-lion, sont deux poissons qui symbolisent particulièrement les espèces étrangères invasives. Elles sont très agressives et peuvent se propager en délogeant les autres espèces de poissons endémiques. De plus, le poisson-lapin n'est pas comestible, ce qui rend la situation encore plus compliquée. C'est notamment une grosse menace pour les pêcheurs.
L'augmentation des températures dans le milieu marin a pour corollaire la montée annoncée des eaux et fait ainsi planer une autre menace sur les zones côtières cette fois-ci. En 2020, une étude du Centre commun de recherche de l'UE anticipait ainsi la disparition de près de la moitié des plages grecques d'ici à 2050. Outre l'impact sur les populations locales et certaines infrastructures, c'est aussi tout un pan du secteur touristique, qui représente près d'un quart de l'économie du pays et dont la Grèce est extrêmement dépendante, dont l'existence même risque d'être remise en question.
« La Turquie a enfin ratifié les accords de Paris sur le climat, le premier traité international qui vise à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais de la parole aux actes, le chemin sera long. Selon un rapport parlementaire, le pays est encore loin d'avoir pris la mesure des changements attendus. À Istanbul, Anne Andlauer.
C'est l'un de ces innombrables rapports sur la crise climatique dont même les prévisions les plus optimistes font froid dans le dos. Résultat des travaux d'une commission d'enquête parlementaire sur les raisons du changement climatique et les mesures à prendre, ils tentent d'imaginer ce que subira la Turquie d'ici la fin du siècle si rien n'est fait ou trop peu. Le rapport s'appuie sur trois modèles scientifiques différents pour proposer plusieurs scénarios. De hausse des températures, d'abord. Entre maintenant et l'année 2099, les hivers en Turquie risquent d'être plus chauds de 2 à 4 degrés. En été, la hausse pourrait atteindre 6 degrés dans les régions côtières de la Méditerranée et dans le sud-est de l'Anatolie, frontalier de l'Irak et de la Syrie. Dans le même temps, le rapport prévoit une baisse générale des précipitations de l'ordre de 60% en été dans les régions les plus touchées. Ces changements auront des effets sur l'agriculture, qui emploie 15% de la population active et joue un rôle social majeur. La productivité agricole d'ici 2050 pourrait ainsi baisser de 10% pour le maïs, 7,5% pour le blé ou 2% pour le coton. Le rapport se conclut sur une liste de recommandations au gouvernement pour déjouer les pires scénarios en insistant sur l'urgence des mesures à prendre. La Turquie a fait un premier pas en octobre en ratifiant enfin l'accord de Paris sur le climat et en fixant, pour la première fois, un objectif de réduire ses rejets de gaz à effet de serre à zéro émission nette d'ici à 2053, sans pour autant détailler les moyens pour y parvenir. Et c'est bien là le problème. Pour atteindre cet objectif, le pays devra réduire ses émissions de 80% dans les 32 prochaines années. Le gouvernement n'a pourtant annoncé aucun plan concret pour diminuer sa dépendance au charbon. Au contraire, 28 centrales thermiques au charbon sont en activité dans le pays et 40 autres sont en projet.
Les images des incendies de forêt en Grèce, en Turquie, en Sibérie ou en France font désormais partie des catastrophes attendues de chaque été. Mais selon les prévisions du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ces épisodes vont devenir de plus en plus fréquents. Comment lutter contre ces désastres? C'est le reportage à Marseille, en plein Mistral, d'Alice Roujat.
On voit ici de la filaire.
Visualiser une garrigue, des taillis verts, une végétation basse et quelques rares pins. Impossible d'imaginer qu'en 2016, ce coin du parc naturel des Calanques a été ravagé par un incendie. Thierry Gauquelin, écologue et spécialiste de la flore méditerranéenne.
On a à ce moment-là un paysage qui peut paraître un paysage de désolation, avec évidemment tous les arbres qui paraissent morts, donc le sol aussi noirci. Toute la végétation basse qui a disparu.
5 ans plus tard, la nature a repris ses droits.
Les pins reviennent en force et le chêne vert a fait de nouvelles branches magnifiques, bien vertes. Beaucoup, après l'incendie, l'auraient cru mort. Eh bien non, pas du tout. Il a résisté à cet incendie et va pouvoir se reconstituer. On voit déjà des glands qui se développent sur l'arbre et qui vont potentiellement pouvoir ensuite germer pour reconstituer la forêt.
Les mains retenant une casquette qui manque de s'envoler, ce spécialiste parle d'écosystème résilient. Ici, avec le climat très sec l'été et le vent violent, les feux ont toujours existé. Alors, les espèces végétales se sont adaptées au climat. Les cistes, par exemple, sont des arbustes qui ne germent qu'après un incendie.
Mais encore faut-il que ces incendies ne soient pas trop fréquents. Si on a un incendie qui passe dans une forêt méditerranéenne ou dans une garrigue tous les 60 ou 70 ans, c'est pas un problème. Mais si on a un incendie qui passe tous les 20 ans, ça risque d'être beaucoup plus problématique.
Et c'est bien là tout le problème. Selon les experts du GIEC, la Méditerranée s'est déjà réchauffée d'1,5 degré et sera amenée à devenir un point très chaud, au propre comme au figuré. Les sécheresses seront plus longues et les précipitations se réduiront. Dans ce contexte, les feux seront de plus en plus fréquents.
Est-ce que on ne va pas arriver à des situations de ce qu'on appelle d'effondrement C'est ça qui nous fait peur, au niveau duquel, eh bien, évidemment, il n'y aurait plus de capacité de résilience des écosystèmes. Mais ce qui fait encore le plus peur, c'est pour eh bien, l'habitabilité par les humains de cette planète.
En une année, le département des Bouches-du-Rhône recense en moyenne 230 feux qui détruisent jusqu'à 1500 hectares de forêt, l'équivalent de 3000 terrains de foot. Au-delà du problème environnemental, ce sont les populations qui en font les frais. Alors, comment les protéger et éviter que tout ne parte en fumée dans les prochaines décennies?
L'idée, peut-être, c'est qu'il faut débroussailler quand on est à proximité des habitations. Mais dès qu'on est dans des forêts qui sont un peu éloignées des habitations, eh bien, l'idée, c'est peut-être de laisser se développer la végétation sous les pins et donc aboutir à une formation qui sera beaucoup moins inflammable.
Parmi les solutions, la préfecture du département a opté pour la préservation et la surveillance des forêts, mais aussi ne plus construire dans les zones à risque et sensibiliser les populations, car c'est un fait, un incendie sur deux est d'origine humaine.
Et en matière de lutte contre le réchauffement climatique, l'Europe peut-elle être un modèle, une force d'entraînement avec le lancement de son pacte vert? C'est la question que Juliette Rangeval a posée à Pierre Charbonnier, philosophe, qui vient d'écrire « Abondance et liberté », une histoire environnementale des idées politiques aux éditions de La Découverte. On l'écoute.
Est-ce que l'Europe peut trouver son destin politique dans la réponse à la crise planétaire? Peut-être. C'est vrai que la grande différence entre l'Europe et les autres superpuissances mondiales, c'est le fait qu'elle est petite. Vous savez, les États-Unis, c'est le point commun entre les États-Unis et la Chine, ils ont de très grands arrière-pays extractifs, par exemple l'Alaska pour les États-Unis, bien sûr toutes les parties centrales, occidentales de la Chine, sont des grands empires de ressources. L'Europe, pas du tout. Elle achète tout. La richesse de l'Europe vient de sa richesse, on peut dire, scientifique, technologique, elle est innovatrice, et puis d'un capital historiquement accumulé, si on peut dire. Et puis, l'autre chose qui est intéressante par rapport à l'Europe, c'est que l'Europe est la seule entité politique au monde à résulter du projet de croissance. Lisez la déclaration de Robert Schuman en 1950, il dit... Donc, bien sûr, le projet officiel, c'est la paix. Hein. Il dit, quelle est la seule solution qu'on peut utiliser pour que la France et l'Allemagne ne se fassent plus jamais la guerre? C'est ce qu'il appelle la solidarité de production. Donc, c'est l'époque de la communauté du charbon et de l'acier. On va rendre deux économies tellement interdépendantes qu'elles ne peuvent plus s'agresser l'une l'autre. C'est comme ça qu'on a fait la paix en Europe. Mais il faut se souvenir que c'est une paix de croissance. Alors, comme l'Europe est en crise, que presque plus personne n'y croit, qui est une sorte de vêtement un peu abstrait dont on a du mal à la fois à concevoir l'identité politique, l'avenir par rapport à la fois aux États-Unis et à la Chine et effectivement à des entités supranationales privées type GAFAM. Peut-être que c'est ça en fait le seul vrai projet européen qui peut jouer le rôle de ciment entre les nations et entre les peuples, c'est la réponse à l'impératif planétaire. Il y avait bien sûr l'idée de l'Europe sociale, hein, l'Europe des protections. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Europe qui protège, c'est plus pour parler des grands murs qu'on est en train de construire autour de la Méditerranée et de l'Europe de l'Est pour faire un sanctuaire des riches assiégés par les pauvres. En réalité, l'Europe qui protège, ça devrait être l'Europe sociale et l'Europe de la transition vers la sobriété. D'abord parce qu'on n'a pas le choix, qu'on a presque pas de ressources, on est quasiment dénué. Donc, il va bien falloir qu'on y vienne contraint ou volontairement. Et aussi parce qu'il me semble que c'est un vrai projet positif de construction réellement politique.
Pierre Charbonnier qui vient de publier aux éditions de La Découverte « Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques ». Il était interviewé par Juliette Rangeval. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site à la rubrique podcast et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. À demain.